Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, suite et fin de notre épisode consacré à Peter Garrett, le leader du groupe Midnight Oil. Et dans cet épisode, on va s'intéresser, comme on vous l'avait promis, plus spécifiquement à sa carrière politique. On retrouve de nouveau avec nous Romain Fatty de l'Australian National University. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, cette carrière politique, en fait, elle démarre très tôt, quasiment dès les premiers succès rencontrés par Peter Garrett avec Midnight Oil, puisque dès 1984, il est candidat à des élections sénatoriales dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud pour un micro-parti, le parti anti-nucléaire.
Oui, tout à fait. Et il faut rappeler que cette époque-là, en 1984, Peter Garrett est assez jeune, hein, il a 31 ans, et il se porte candidat pour le parti du désarmement nucléaire, Nuclear Disarmament Party, dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Et alors, ça fait partie des partis australiens à la cause unique, hein, il y en a plusieurs, hein. Mais à l'époque, c'est négligeable, hein. Faut rappeler qu'en fait, il obtient 8,6% des scrutins exprimés et qu'en réalité, il aurait pu obtenir un siège, vu le système de redistribution, en obtenant un peu plus que 12,5. Donc, c'est pas un score médiocre, il n'a pas été élu, mais on voit déjà qu'à l'époque,
Donc
c'est un.
pour un micro-parti, c'est un résultat même assez exceptionnel, enfin, qui évidemment là repose
Totalement.
entièrement sur la célébrité de son candidat. Oui.
Totalement, totalement. Alors, 84, c'est pas encore les très grandes années de Midnight Oil, mais Peter Garrett est très connu et est très connu en Nouvelle-Galles du Sud, puisque au début des années Midnight Oil, une grande partie de leurs concerts se passe en Nouvelle-Galles du Sud et à Sydney en particulier. Donc, comment dire, cette entrée, enfin, c'est pas une entrée puisqu'il n'est pas élu, mais cet avant-goût de la politique, elle se développe très tôt chez lui. Faut voir que Peter Garrett a perdu son papa assez jeune d'une crise, d'asthme très importante. Donc il a perdu son père étant jeune et au tout début de sa vingtaine, il a perdu sa maman dans un incendie. Donc c'est quelqu'un qui effectivement connaît une certaine popularité, qui est un artiste accompli, mais qui connaît des traumatismes aussi dans sa jeunesse.
Après cette expérience avec le parti du désarmement nucléaire, avec lequel il n'arrive pas à se faire élire, il va se concentrer évidemment beaucoup plus sur sa carrière musicale, tout en gardant quand même un pied dans la politique australienne. Il fait ce qu'on pourrait appeler du lobbying, puisque il va être à deux reprises président de l'Australian Conservation Foundation, donc qui œuvre pour la protection de l'environnement, président de cette fondation entre 90 et 94, puis de 98 à 2004. Et c'est cette année-là, en 2004, qu'il entre véritablement, on va dire, dans le monde politique, puisque là, cette fois, il est adoubé par l'un des principaux partis du pays, le Parti travailliste, comme son candidat dans une circonscription de Sydney, Kingsford Smith, donc c'est celle où se trouve l'aéroport, et qui est un fief du Parti travailliste. Donc Peter Garrett, désigné par le parti dominant ici, est évidemment élu sans aucune difficulté. 2004, néanmoins, les travaillistes ne parviennent pas à remporter les élections. C'est John Howard qui la conserve avec un seul petit siège d'avance. Et finalement, c'est donc, on en avait parlé dans le premier épisode, en 2007 que les travaillistes l'emportent et reviennent au pouvoir avec Kevin Rudd. Et Kevin Rudd fait de Peter Garrett l'un de ses ministres et pas un ministre de moindre importance. Il est ministre de l'Environnement, du Patrimoine et des Arts. C'est, j'imagine, dans la société, une énorme surprise à l'époque où on s'y attendait déjà à ce que voilà, il accède aux plus hautes fonctions du gouvernement parmi la population australienne.
Chacun s'attendait à ce que Peter Garrett occupe une place importante dans le nouveau gouvernement Rudd. Ça faisait déjà quelques années que Peter Garrett était parlementaire. Mais en fait, quand on voyait Peter Garrett, on ne voyait pas un député. On voyait Peter Garrett comme grand leader certain nombre de causes, surtout sur l'environnement, sur la question des droits aborigènes, le côté anti-nucléaire, mais ça avait été déjà un peu oublié. Si bien que, en fait, Peter Garrett avait utilisé un mot assez juste, c'est que quand il chante, il continue le lobbying. Donc, il n'est pas élu en 84, mais dans les années 90, vous l'avez rappelé, il a un certain nombre de rôles assez importants, dont président de l'Australian Conservation Foundation. Et en fait, ça fait partie de ces célébrités qui prêtent leur image à une cause. Et donc, c'est lui, sa personnalité, c'est-à-dire quand on le voit à l'écran, on sait que c'est un chanteur, mais on sait également ce qu'il va défendre. Il est éminemment associé au progrès de la cause aborigène et surtout environnementale. Donc, quand il est nommé ministre de l'Environnement sous le gouvernement Rudd à partir de 2007, c'est un coup politique pour Rudd, en fait, parce que la gloire de Peter Garrett rejaillit sur le gouvernement Rudd qui a l'air très progressiste et profite hein, du capital positif émotionnel de la population australienne envers Peter Garrett. Alors cette lune de miel ne va pas durer, mais Peter Garrett est nommé. Ce n'est pas vu comme quelque chose d'exceptionnel dans la mesure où il était déjà député depuis 3 ans, mais en revanche c'est très très bien accueilli parce qu'on se dit oh là là, ça y est, c'est une nouvelle période qui s'ouvre après 11 ans de conservatisme à la John Howard.
Vous l'avez dit, c'est un personnage qui, quand il arrive en politique, incarne déjà des positions politiques très fortes, plus fortes souvent, voire contraires parfois à celles défendues par le Parti travailliste. Ça va lui être reproché, mais on y reviendra un peu plus tard. Mais il a quand même, en tant que ministre de l'Environnement, un fait d'armes. Il a, au nom de l'Australie, poursuivi le Japon devant la Cour internationale de justice parce que le Japon, à cette époque, continuait à pêcher la baleine pour de soi-disant motifs scientifiques. Et en tant qu'ancien président de l'Australian Conservation Foundation, c'était vraiment un cheval de bataille important pour Peter Garrett.
Oui, alors la pêche à la baleine, c'est pareil, comme maintenant elles sont protégées, c'est quelque chose que l'on a un peu oublié. Mais dans les années 80 et 90, la défense des baleines, c'est un mouvement global. Ça peut paraître un peu naïf aujourd'hui, mais pas du tout. C'est un mouvement qui s'inscrit aussi dans la défense globale de l'environnement et des océans. Et donc, à travers le monde, hein, via Greenpeace ou aux États-Unis, en France, un peu partout, vous avez de nombreuses personnes qui défendent la cause de l'arrêt de la pêche à la baleine, ce qui est progressivement obtenu. En revanche, dans le cadre, vous avez plusieurs exceptions. Il y a l'exception culturelle, si par exemple la pêche à la baleine, pardon, fait partie de votre culture. Et donc, certains peuples du Grand Nord canadien sont autorisés à en prélever. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez accepté. En revanche, vous aviez la position assez perfide, hein, il faut le dire, du Japon, qui disait qu'en fait, non, ils allaient continuer à pêcher la baleine pour faire des recherches scientifiques, pour justement préserver les baleines. Alors, allez comprendre. Et en réalité, on sait très bien qu'une grande part de la chair qui était prélevée sur ces baleines se retrouvait dans les restaurants très prisés japonais. Et donc, chaque année, certains navires japonais, sous prétexte de recherche scientifique, allaient prélever des baleines dans l'océan Pacifique et non loin des côtes australiennes. Donc effectivement, c'était une cause qui avait passé ses heures de gloire, mais qui a quand même rejailli assez positivement sur Peter Garrett. Bon, l'arrêt de la Cour internationale a été rendu après qu'il ait été ministre, mais c'est vrai qu'il fallait oser pour un petit pays comme l'Australie d'attaquer en justice un pays beaucoup plus important économiquement comme le Japon. Mais l'Australie a effectivement eu gain de cause et c'est un des faits d'armes de Peter Garrett. Alors, c'était pas le plus important, mais ça fait partie de son héritage politique.
Ouais, et justement là-dessus, je commençais à le dire, il a eu quelquefois, étant aux commandes, à prendre des décisions contradictoires avec ses positions passées. Je pense notamment à ses positions farouchement anti-nucléaires, et au final, c'est un ministre de l'Environnement qui, sous son exercice, a approuvé l'agrandissement assez massif d'une mine d'uranium, justement.
Oui, en Australie méridionale, dont la capitale était Adélaïde. Effectivement, bon, là, il faut expliquer quelque chose de structurel. En Australie, c'est un système parlementaire de Westminster qui est assez différent, où ce qu'on appelle le caucus, c'est-à-dire le groupe parlementaire, soit au pouvoir, soit d'opposition, est un groupe qui décide des actions gouvernementales. Alors, le Premier ministre a effectivement à donner l'impulsion également, mais de manière générale, si votre groupe parlementaire n'est pas d'accord avec vous, il peut, eh bien, il peut déjà vous démettre de vos fonctions. Et ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire australienne où le Premier ministre est démis parce que le groupe politique n'est plus totalement en accord. Mais quand vous travaillez dans un groupe, ça veut dire que vous devez aussi accepter d'une façon un peu démocratique les décisions du groupe. Et parfois, les décisions du groupe vont à l'encontre de vos opinions personnelles. Donc, les couleuvres que Peter Garrett a dû avaler, certains l'ont condamné en disant, voilà, il a complètement retourné sa veste, c'est une aberration. D'autres ont dit, bah non, c'est un joueur en équipe, puisque voilà, l'équipe au pouvoir a décidé telle politique. Bon, bah, au lieu de les critiquer, il fait corps. Donc ça, on peut l'interpréter de façon différente, mais l'aspect structurel de la politique australienne ici est important à comprendre parce que, effectivement, sur la stratégie d'alliance australo-américaine, qui effectivement n'est pas du goût de Peter Garrett, surtout dans les années 80, eh bien, bah, il a dû avaler une couleuvre et accepter le fait que le principal allié de l'Australie dans la région, ce sont les États-Unis. Sur, effectivement, la politique de l'uranium, lui, c'est quelqu'un qui aurait préféré qu'il n'y ait pas de mine d'uranium en Australie. Simplement, voilà, c'est quelque chose qui a été acté par le Parti travailliste dans les années 80 et il a été décidé qu'il y aurait quelques mines et que ces mines seraient continuées d'exploiter, mais qu'il n'y aurait pas d'autres mines par ailleurs. Donc, vouloir toutes les fermer, à l'époque, en 2007, 2008, 2009, ce n'est plus possible. Hein. Donc, c'est peut-être ses convictions intimes, mais ce n'est pas celle du parti. Et pour garder le pouvoir ou pour faire avancer les choses là où vous pouvez les faire avancer, vaut mieux parfois être à l'intérieur de la tente, comme on dit en anglais, qu'à l'extérieur. C'est le choix qu'il a fait de se dire, bon, eh bien, je n'avancerai peut-être pas sur tous les sujets, mais il y en a certains sur lesquels je peux proposer des changements positifs. Et c'est de façon assez globale ce qu'il a fait, sauf sur quelques cafouillages dont on pourra peut-être parler.
Alors justement, cette première expérience de ministre de l'Environnement, elle se termine abruptement 3 ans plus tard. Peter Garrett est démis de ses fonctions par Kevin Rudd, qui lui met sur le dos l'échec d'une politique d'isolation des logements, et plus précisément d'isolation des toits, qui a été en fait... mise à terre par une série d'accidents, dont 4 morts des jeunes qui travaillaient pour installer justement ces isolants dans des maisons, sont morts électrocutés, ce qui a complètement plombé cette politique. Et donc, au niveau du gouvernement qu'il a mis en place à l'époque, c'est Peter Garrett qui en a payé le prix.
Qu'il a transpiré, c'est qu'effectivement, il a pris pour quelqu'un d'autre, hein, et à savoir, il a pris pour Rudd, il a couvert le gouvernement Rudd. Ce qu'il faut rappeler à nos auditeurs qui ne seraient peut-être pas en Australie, c'est que de façon générale, les logements australiens sont extrêmement mal isolés. Nombreux sont encore les logements qui ont des vitres en verre d'une glace, vous savez, comme un logement parisien des années 70. Et donc, quand le gouvernement Rudd arrive au pouvoir, et la question environnementale est importante, et la question de savoir s'il faut une taxe carbone également. Et donc, en parallèle de ça, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter des consommations d'énergie aberrantes, on peut proposer d'isoler les logements, ce qui est une très très bonne idée, hein, en réalité. Ça fait des décennies que la France fait ça et que la plupart des pays européens le font. Et donc, cette politique qui est souhaitée par le gouvernement Rudd, évidemment soutenue par Peter Garrett, fait que sur le plan pratique, le gouvernement propose de mettre la main à la pâte et de donner de l'argent aux Australiens qui souhaiteraient isoler leur toit avec, grosso modo, de la laine de verre. Et pour que ça avance un peu à marche forcée, les conditions d'entrée du marché pour les travailleurs qui souhaiteraient poser cette laine de verre ou ces matériaux isolants est facilité. Hein, si bien qu'en fait, on envoie au charbon des gens qui ne sont pas très qualifiés, qui vont travailler dans des combles où il fait très très chaud parce que les toits australiens sont généralement en tôle, donc ce qui aggrave les phénomènes de chaleur en été, d'où la nécessité de cette isolation. Et vous avez effectivement quelques jeunes hommes qui, tristement, décèdent de crise de chaleur, d'électrocution en réalité. Et donc ça fait un scandale national qui a été très agité par la presse Murdoch, par la presse de droite, qui a effectivement secoué le gouvernement Rudd. Et pour ne pas perdre la face, il bon, fallait mettre un gladiateur dans l'arène et en sacrifier un. Et tristement, c'est Peter Garrett qui a été sacrifié. Ce qui a été assez mal vu dans le gouvernement Rudd à l'époque, parce que ça intimait aux autres ministres que, voilà, même s'ils ne faisaient pas d'erreur, ils pouvaient être débarqués. Ce qui a contribué aussi à la fin du gouvernement Rudd, puisqu'il a été remplacé par Julia Gillard, sa ministre de l'Éducation et sa co-ministre, en fait, surtout en termes de publicité, parce qu'ils avaient été élus un peu tous les deux comme le couple politique gagnant.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Celui qui a démis Peter Garrett de ses fonctions et lui-même démis quelques semaines plus tard par les propres membres de son gouvernement. Et comme vous le dites, Julia Gillard devient Premier ministre à la place de Kevin Rudd en 2010. Les travaillistes parviennent à se maintenir au pouvoir avec une très courte majorité. Et Julia Gillard décide de rappeler Peter Garrett, qui elle estime qu'il a été traité un peu injustement dans cette affaire d'isolation, et elle le nomme cette fois ministre de l'Éducation. Et alors, j'avoue que j'ai pas fait l'intégralité du bilan de Peter Garrett à ce poste, mais j'ai été assez surpris parce que il a proposé en 2012 une politique qui visait à lutter contre l'absentéisme scolaire. Et grâce à cette loi qu'il souhaitait faire adopter, les parents d'enfants aborigènes qui manquent l'école auraient vu leur versement Centrelink supprimé pendant 3 mois, suspendu pendant 3 mois. Et bah là, on voit tout de suite le décalage avec le message qu'il porte depuis des années en faveur des aborigènes. Et à vrai dire, j'ai été vraiment choqué quand j'ai appris cette politique parce que c'est le genre de mesure qui est prônée en France par des partis d'extrême droite.
Oui, alors, il va falloir. Alors, le Centrelink Payment, pour nos auditeurs, c'est l'équivalent des allocations, quelles que soient, hein, ce sont des allocations chômage ou allocations familiales, etc. Et effectivement, la proposition, c'était de dire, bah, dans les communautés du Nord où il y a un absentéisme scolaire fort, on va taper là où ça fait mal et on va taper sur le portefeuille. Ils sont effectivement des propositions qu'on entend de temps à autre en France. Sur l'échiquier politique qui est le plus à droite. À l'époque, cette politique, elle était quand même soutenue par le ministre des Affaires aborigènes, Jenny McLean. Et je ne cherche pas à excuser, je suis historien, donc je cherche à contextualiser. Vous êtes sur un gouvernement minoritaire, hein. Le gouvernement de Julia Gillard ne tient qu'à un fil. Et il est poussé, poussé, poussé de plus en plus à droite sur l'immigration, sur voilà, la manière dont on doit composer avec les aborigènes, parce que vous avez énormément de pression du parti de droite, le parti libéral,
C'est une époque
qui
où
fait
Tony Abbott est en train de monter en puissance hein, de ce côté de l'échiquier politique.
totalement, totalement, et où Julia Gillard est dépeinte comme étant une sorcière, qui est quand même un vocable assez sexiste et passéiste et qui rappelle les années Thatcher. Bref. Peter Garrett est dans une position difficile parce qu'effectivement, il doit faire avancer les propositions du gouvernement, un gouvernement qui souhaite montrer qu'il est fort et strict plutôt que libéral et pro-généreux. Mais, bon, ça c'est effectivement une des choses regrettables hein, qui s'est passée. Mais Peter Garrett, c'est aussi quelqu'un qui a défendu l'école publique dans un pays où l'école privée est surfinancée par le contribuable. Et par exemple, en 2011, avant, la plupart des écoles pouvaient avoir un religieux, en fait, hein, peu importe la dénomination, pour soutenir les élèves qui pouvaient avoir peut-être certaines difficultés à se trouver. Donc, il y avait un élément très religieux dans beaucoup d'écoles, souvent protestants en réalité. Et donc, a été introduit la possibilité d'avoir un well-being officer, un personnel en charge du bien-être mental des élèves, qui soit un personnel séculaire. Et ça, c'est un changement de donne dans les écoles australiennes parce que ça remet en cause un peu le poids de la religion et de l'Église. Donc, effectivement, quand on reste quelques années en poste, on trouvera toujours des choses plus ou moins positives dans le bilan.
Donc
Ce qui est intéressant.
il a contribué à laïciser les écoles australiennes.
Oui, très clairement, sur
Ouais.
ce point-là très spécifique. Oui. Après, il faut voir que ce Marocain-là, hein, ce ministère, il l'a hérité de Julia Gillard, qui a été ministre de l'Éducation sous Rudd, et qui en fait souhaite réintégrer Peter Garrett, non seulement parce qu'elle considère qu'une injustice lui a été faite, mais aussi parce qu'elle a besoin de soutien au sein du parti, et que Peter Garrett n'est pas un poids lourd politique. Mais c'est un poids lourd pour l'électorat.
Ouais.
Hein, donc, elle est plutôt intelligente, le réintègre, travaille avec lui, lui confie un Marocain qu'elle a elle-même dans lequel elle a elle-même travaillé. Donc, comment dirais-je, il est guidé. Et je pense que quand de nouveau Rudd revient au pouvoir en balayant le gouvernement Gillard, Peter Garrett en a assez. Donne sa démission et arrête la politique. Je pense que c'est pas quelque chose qu'il peut encore exprimer parce que tout ça est assez chaud et qu'il ne veut pas mettre en mauvaise posture, voilà, certaines personnes qui sont encore dans le parti travailliste. Mais à mon avis, cette expérience politique qui a eu hein, un certain succès hein, a quand même été très très difficile à gérer pour lui.
Il a consacré beaucoup d'interviews sur le sujet. Dans l'ensemble, il ne renie pas son bilan, mais c'est vrai qu'on sent que parfois, il en a quand même gros sur la patate, on va dire. On verra peut-être qu'un jour, il s'ouvrira davantage sur le sujet. Un dernier point plus général, Peter Garrett est loin d'être le seul artiste à avoir un jour embrassé une carrière politique au plus haut niveau. En France, on peut citer par exemple André Malraux. Au Brésil, il y a le chanteur Gilberto Gil, Youssou N'Dour au Sénégal. Mais la plupart des fois où des artistes rentrent en politique et intègrent un gouvernement, ils sont cantonnés à leur domaine d'origine, la culture. Peter Garrett, en cela, il est assez différent des autres.
Alors oui, il a été ministre de la Culture, hein, mais surtout il a été ministre de l'Environnement et ministre de l'Éducation. Donc, c'est pas nécessairement là où on s'attendrait à avoir un chanteur. Mais les artistes en politique, c'est pas quelque chose de rare. Alors, je ne considère pas que les talents d'acteur de Ronald Reagan le mettent au niveau d'un artiste. Certains pourront être en désaccord avec moi, mais il a quand même été président des États-Unis. Sinon, du point de vue artistique, peut-être un peu plus noble, moi je pense évidemment au poète et écrivain Léopold Sédar Senghor, hein, qui devient président du Sénégal. Je pense aussi à Vaclav Havel. Nos auditeurs, peut-être un peu plus âgés, se souviendront d'un pays qui n'existe plus, la Tchécoslovaquie, qui depuis est devenue la République tchèque. Mais Vaclav Havel, c'est un auteur, c'est un poète, c'est un écrivain de théâtre qui devient président. En Haïti également, il s'appelle Michel Martelly, qui est un chanteur, je crois que son nom de scène c'est Sweet Mickey, qui a été président de l'Haïti entre 2011 et 2016. Donc, en réalité, on peut trouver, l'histoire est toujours un réservoir d'exemples.
Eh bien, merci beaucoup Romain Fati pour toutes ces précisions sur la carrière de Peter Garrett. On espère que ça vous a intéressé et que ça vous donnera envie d'écouter leurs chansons. Elles sont disponibles un peu partout sur Internet. Merci encore Romain Fati et à très bientôt pour un prochain épisode.
Merci, à très bientôt, au revoir.